T'as ce micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthes, bienvenue sur le 107, nous sommes le 9 novembre, il est 8h30, une matinale exceptionnelle ce matin, je vous le dis, avec des femmes fantastiques. Ce matin, la matinale est consacrée entièrement au CIDFF, le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Cette année, l'asso fête ses 30 ans et elle organise le 23 novembre prochain au Théâtre de Mende une soirée théâtre, et pendant ce temps, Simone Veil. Pas d'édito ce matin encore, mais c'est qu'il y en a des choses à dire pour défendre la cause et les droits des femmes. Et vous êtes bien sur Radio Bartas, vous êtes bien sur le 107. Et aujourd'hui, quel plaisir de recevoir une association. C'est une association, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord?
Oui.
Ô combien importante en Lozère, mais aussi en France, le CIDFF. On va tout comprendre, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, et elles sont venues en nombre, c'est vraiment génial. Christelle Chapelle, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes la présidente actuelle.
Oui.
Christina Wagner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'honneur. Ça vous fait sourire, mais on parlera tout à l'heure pourquoi c'est important que vous soyez présidente d'honneur de cette association. Valérie Lucas, pardon, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes la directrice actuelle.
Effectivement.
Et Catherine Morand, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez l'ancienne directrice de l'association.
Oui, exactement.
Et pourtant, c'est un combat duquel on ne se sort pas. Une fois qu'on a mis un pied dans l'association, c'est impossible d'en sortir, Christina.
Oh ben, moi, j'en suis sortie tout simplement parce que c'est amende et moi, je suis à Florac.
La raison est assez simple. Eden est avec moi. Ça va, Eden?
Eh oui, ça fait longtemps, on n'était pas ensemble, en vrai.
Ah ben, en vrai, ça fait du bien de t'avoir en studio. Eh ben, vas-y, je te laisse la première question. Je pense qu'elle se contextualise.
Un petit peu. Moi, ma première question, en fait, c'est juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au CIDFF?
Alors, peut-être expliquer, oui, ce que c'est un CIDFF. Hein, à l'origine, c'est une association qui était... Alors, si on va peut-être remonter au moins, peut-être pas les premiers CIDFF, mais ceux qui ont été peut-être mis en place à partir de 82, mais sachant bien que ça a commencé avant. Les premiers CIDFF s'appelaient les CIF, hein, Centre d'information des femmes, hein, qui ont commencé, je crois, en 70. 17, si je...
Ouais.
72, bah, excusez-moi, oui, 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 oui. En 72, mais ça a été vraiment institutionnalisé en 82, où vraiment par Yvette Roudy, elle a déployé des chargées de mission sur les départements qui, elles, ont commencé à mettre en place des CIDFF. En quelque sorte. Nous, la première chargée de mission en Lozère, c'était Madame Marie-Claude Monod, qui s'est vraiment battue, franchement, à l'époque, parce que c'était en 82 qu'elle est arrivée en Lozère. Elle est arrivée donc à la préfecture de Mende, installée dans un... Pour la petite histoire quand même, je vais le raconter, dans un toilette, puisqu'il n'y avait pas de bureau. Donc on a enlevé le toilette et on en a fait un bureau. Donc c'est quand même... On comprend l'environnement, l'état d'esprit de l'époque, hein, et c'est elle qui s'est battue, hein, effectivement, pour la création des CIDFF, d'un CIDFF en Lozère. Et on va dire qu'il y avait deux départements qui n'étaient pas pourvus de CIDFF. La Lozère était dedans.
C'est fou, c'est que c'était il y a juste 30 ans.
C'est un peu...
C'est tellement proche.
40 ans.
Ah, c'est il y a 40 ans. Je crois que vous fêtez vos 30 ans cette année, comme vous voulez.
Ah oui, non, mais le premier CIDFF avec Chris...
Ah, pardon.
C'était en 82, hein, madame... madame Monod, Marie-Claude Monod. C'était en 82, donc elle était... Voilà. Et elle s'est battue pour mettre en place en 91, effectivement, le CIDFF en Lozère.
Tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec toutes, effectivement, les évolutions avec le temps. Donc les CIDFF, c'était à l'origine, c'est accompagner toutes les femmes dans l'autonomie, hein, parce que c'est, on parle de l'origine des CIDFF, dans l'autonomie, c'est-à-dire par le travail, dans sa vie professionnelle, familiale, et c'est l'autonomie des femmes dans toute sa vie personnelle, professionnelle, familiale, et l'autonomie, elle passe effectivement par le travail. Donc c'est un petit peu aussi la place, redonner une place aux femmes dans notre société, puisque les femmes, elles étaient ou mariées ou elles étaient femme d'un mari, mère d'enfant, mais c'était pas une c'était pas un statut. Et on va dire que peut-être la loi qui a peut-être rendu une vraie place à la femme, c'est le droit de vote par le général de Gaulle. C'était en 45, je crois que les femmes ont voté en
46 pour la première fois.
Pour le premier vote. Voilà, et on va dire que là, elles sont reconnues à part entière citoyennes. Donc je pense que c'est des voilà. C'est en tous les cas pour moi, mais je pense pour beaucoup, c'est pas nier tout ce qui s'est passé avant, hein, parce que on va dire que ça part de très loin, il y a les suffragettes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes, il y a toujours eu des femmes qui se sont battues pour leurs droits, pour être reconnues en tant que femmes, avoir un statut au même titre que les hommes. Mais on va dire que cette loi du général de Gaulle a assis un petit peu notre combat, quelque part.
Et le combat qui n'est pas fini, puisque depuis jeudi dernier, les femmes travaillent gratuitement en France. C'est quand même fou. Voilà. Allez-y, c'est une petite discussion. Donc, ça veut dire qu'on n'y est pas encore aujourd'hui.
Ben non, on n'y est pas. Effectivement, les femmes gagnent moins que les hommes, et
pour
fonctionner, si on a un salaire égal, effectivement, les femmes s'arrêteraient de travailler à la fin du mois d'octobre chaque année.
Voilà, d'où l'importance.
Même s'il y a une évolution et que l'écart se réduit, c'est vrai que quand on parle de l'écart de salaire, il faut toujours se référer à salaire égal, temps de travail égal, conditions de travail, etc. L'écart se réduit, mais il reste toujours présent. Les femmes, lorsqu'elles sont employées, sont toujours présumées futures coupables de maternité, et donc venant perturber le fonctionnement de l'entreprise ou de l'administration, et donc elles sont sanctionnées dès leur prise de poste, en fait.
Alors, on a parlé du début du travail pour l'émancipation des femmes. Jean-Pierre Monstillo, tiens, c'est fou. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire les différentes missions qu'aujourd'hui assume, entre guillemets, le CIDFF ?
Peut-être d'abord pour exister un CIDFF, l'obligation sine qua non, c'est d'avoir une juriste. Hein, le service juridique est un élément clé, hein, c'est-à-dire l'accès au droit, c'est-à-dire que toutes les femmes peuvent avoir connaissance de leurs droits à tous les niveaux, parce qu'en France, on a des lois qui ont été mises en place, et bon, peut-être que, on va dire, à aujourd'hui, peut-être pratiquement toutes les lois sont là pour effectivement donner une place aux femmes, la même place qu'aux hommes, hein, je veux dire la même, hein, parce que je vois pas, on est, voilà, hein, c'est notre société constituée d'hommes et de femmes, et sauf que l'application de ces lois, c'est autre chose, voilà, et dans notre, je crois dans les comportements, il y a quelque chose un petit peu de culturel qui reste et qu'il faut effectivement changer de regard peut-être sur nos fonctions, et que tout le monde s'y mette, hein, hommes, femmes. C'est pas donner une place aux femmes, c'est pas enlever la place des hommes, c'est pas absolument pas ça, hein, c'est être ensemble sur la même sur les mêmes champs d'action, hein, on travaille ensemble, je veux dire, au même titre que, peut-être je vais pas le dire, mais ensemble hommes, femmes, on constitue notre société, donc on a la même place, je vois pas pourquoi, enfin moi je me dis, quand je pense qu'il y a même pas 50 ans en arrière, on disait que le cerveau des femmes était plus petit que celui des hommes, comme celui des singes était plus petit que celui des hommes, donc comme les singes étaient moins intelligents que les hommes, ben les femmes l'étaient également, hein, vous voyez la comparaison, donc je me dis, il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment un travail de fond. Il y a des lois, et tant mieux, mais il y a plus que ça. Il faut changer les comportements, à mon avis, et c'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'on voit que les choses bougent, mais les plafonds de verre existent toujours, l'inégalité des salaires existe toujours, les comportements vis-à-vis des femmes, pour certains, vous voyez, les violences conjugales existent toujours, le sexisme existe toujours, vous savez, les violences de rue pour les femmes, et bon, et Dieu sait, là, sur toutes là, on en a tous plus ou moins connu, et qu'à l'époque, moi, quand j'étais jeune, on était toujours surprise de ces comportements, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, dit, on se dit, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Mmh. Hein, on ne va pas pincer les fesses des hommes, hein, je veux dire, ça n'existe pas. Hein, non, mais c'est vrai, enfin, on ne va pas regarder comment les hommes s'habillent, on regarde comment les femmes s'habillent. Donc, c'est tout ça, enfin, c'est bête, mais c'est tout ça, c'est tout ça aussi.
Valérie, pour rebondir sur la question d'Hélène tout à l'heure, c'est quoi votre rôle en tant que directrice et justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement au sein du CIDFF ?
Alors moi, mon rôle en tant que directrice, eh ben, je suis l'interface entre le pilote, donc le conseil d'administration du CIDFF, et puis les salariés qui sont à l'ouvrage tous les jours. Donc, c'est de permettre à de coordonner l'équipe, de coordonner les actions qui sont proposées en lien avec eh ben, les partenaires, hein, les administrations notamment, pour répondre aux besoins des femmes sur le territoire de Lozère, puisqu'on ne peut pas faire sans cohérence avec les politiques publiques, puisque l'association est agréée par le ministère, alors ça change de nom, hein, ou par le service central aux droits des femmes et bénéficie de financements publics, sans quoi, sans ces financements, on ne peut pas fonctionner. Et du coup, moi, je peux être amenée à proposer des projets d'action au conseil d'administration qui va les valider, faire remonter les besoins, être auprès de mes collègues. Ce matin, par exemple, nous étions en réunion d'équipe. Et on échange sur nos actualités, sur les actions qu'on est en train de décliner, sur les situations qui nous préoccupent. Et par exemple, ce matin, sur cette seule réunion hebdomadaire, on a évoqué deux situations où on avait des craintes pour les femmes. Même pour la sécurité des femmes, avec la possibilité peut-être de leur proposer des téléphones de grave danger, et un autre dossier où on se posait la question du mariage forcé. Donc même en Lozère, sur une réunion hebdomadaire, trois sujets abordés en réunion d'équipe au CIDFF, c'est beaucoup. Voilà, donc c'est de voir, de faire, je veux dire, le chef d'orchestre, en fait, entre les collègues, entre le conseil d'administration, les partenaires.
Alors justement, est-ce que vous parliez, de trois mariages forcés ?
Non, un.
Pardon.
C'est deux situations, en fait, on avait trois situations préoccupantes.
Là, c'est voilà. Tout à fait clair. Est-ce qu'on a des chiffres sur les violences faites aux femmes, etc. Comment ça se passe ? Comment vous centralisez tout ça ? Est-ce que, d'ailleurs, c'est utile de dire des chiffres ?
Alors, c'est utile parce que ça donne à voir de l'activité de l'association. Pour l'association, sur l'accueil des femmes victimes de violences, donc tout à l'heure, on nous interrogeait sur quels sont les services qui sont proposés. On a, au sein de l'association, beaucoup développé depuis une dizaine d'années tous les services d'accompagnement des femmes, d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc, ce que disait la présidente tout à l'heure, notamment avec l'appui du service juridique, mais aussi du service psychologique, d'un accueil de jour pour femmes victimes de violences et d'un dispositif d'hébergement, avec des actions parallèles, par exemple des groupes de parole, des ateliers de sophrologie, etc. Et au service psychologique, c'est 110 femmes par an qui sont accompagnées, hein, sur plusieurs entretiens pour une écoute sur leur situation. Parfois, c'est des femmes qui n'évoquent pas les violences. Elles n'ont pas encore mis de mots sur ce qu'elles vivaient. Et parfois, c'est des femmes qui ont engagé des procédures et qui ont besoin d'être soutenues et accompagnées pour ces procédures qui peuvent parfois être vécues comme une nouvelle violence. Sur notre accueil de jour, donc, qui est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h, sans rendez-vous particulier, là aussi, 2021, c'était 90 femmes qui avaient été accueillies. Mais au jour d'aujourd'hui, pour 2022, fin octobre, on est à plus de 100 personnes. Donc on a encore une augmentation du chiffre. Et puis on a aussi développé la partie hébergement avec aussi les soutiens de l'État sur des hébergements d'urgence, puisqu'on a à ce jour 4 places d'hébergement d'urgence, plus une place volante, et puis des hébergements plus temporaires, ce qu'on appelle des places d'ALT, allocation logement temporaire. Et là, on en a 3 places, si je ne me trompe pas, si je compte bien.
Est-ce que ce sont des femmes de Lozère ou elles viennent d'autres départements pour justement échapper à une espèce d'emprise ?
On a les deux. Sur l'hébergement, on a actuellement des femmes qui arrivent de d'autres départements pour effectivement rompre avec le conjoint violent. D'où aussi l'intérêt, on ne propose pas simplement un toit, mais c'est vrai que l'équipe du CIDFF, elle est plurielle. On a des professionnels, juristes, psychologues, éducatrices spécialisées, des conseillères emploi. L'idée, c'est de pouvoir accompagner globalement la personne, donc une personne qui arrive de l'extérieur, qui se dit, oui, je suis à l'abri, mais peut-être que je pourrais faire ma vie. On peut aussi travailler avec elle le projet, et si elle souhaite rester en Lozère, c'est travailler avec elle son projet peut-être professionnel, de formation, d'emploi, l'intégration, éventuellement l'accompagnement vers les écoles quand il y a des enfants, vers la crèche, les temps d'écoute, etc. Donc c'est vraiment une prise en charge globale qui est proposée par le CIDFF Lozère.
Je voulais juste dire que pour les 110 femmes accompagnées par la psychologue, c'est sur mande parce qu'elle fait très peu de permanence extérieure, pratiquement pas. Donc c'est pour dire que c'est sur mande, hein, puisque le siège de la structure se trouve à Mende, hein, immeuble le Britext à Mende. Donc c'est pour signaler, moi ça m'a toujours beaucoup impressionné, 110 femmes sur mande, hein, qui sont victimes de violences conjugales. Voilà, donc
Dedans, on a une dizaine qui sont accompagnées sur Saint-Chély.
Voilà. Mais ça fait la majorité, c'est sur Mende quand même. Et je voulais quand même le signaler parce que pour moi, ça me semble important. On essaye, bien sûr, on a des permanences et si besoin, on va y aller, hein, puisqu'il y a sur Saint-Chély. Et ça, ça fait pas très longtemps. Hein, on développe en fonction des besoins et de ce qui remonte. C'est aussi ça, la structure. Mais voilà, tout le monde dit la Lozère, c'est beau, c'est joli, mais il n'y a pas que. Hein, pas que. Il y a aussi le revers. Comme ailleurs, il y a les mêmes situations aussi dramatique et des fois aussi sordide, je vous le dis. Voilà. C'est pour mettre un petit peu. C'est nécessaire. Je pense que les centres d'information sur le droit des femmes et des familles sont nécessaires parce que ça permet aux gens d'ouvrir, de permettre de parler, de dire voilà, ce qu'elles ont, quand elles ont un lieu. Et c'était là-dessus que Madame Monod, Marie-Claude Monod, la première chargée de mission, c'était effectivement dans ce but d'ouvrir ces centres d'information pour que les femmes puissent parler.
Le centre d'information du droit des femmes et des familles, je pense qu'il y a une question pertinente que tu as posée, Eden.
Ah ouais, du coup, moi, je viens d'avoir 20 ans, du coup, j'ai un peu, je vois encore un peu le truc sur le prisme de l'adolescence et je me demandais si un ado, il voit que sa mère est victime de violence, est-ce qu'il peut venir vous voir ?
Bien sûr, hein, y a pas, pour nous, y a pas, on ferme pas la porte, on écoute et après on voit comment, si c'est possible, parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit, on peut pas intervenir si la personne victime ne fait pas la démarche, on ne peut pas. Mais peut-être si un adolescent, si on trouve effectivement, on vérifie de la véracité de son propos, on peut essayer de trouver un moyen de... Voilà. Mais on ne peut pas l'obliger. Hein. C'est effectivement une démarche de la victime, une démarche personnelle. Voilà.
Christina, comment vous en êtes arrivée, vous, à rentrer au CIDFF ? Comment ça s'est passé ?
Eh ben, je ne suis pas rentrée au CIDF. J'ai participé à la création.
À la création, carrément. Ouais.
Voilà. Et donc... Oui, bien, sur Florac, dans les années 70, on a mis en place des formations pour toutes les femmes rurales, qui étaient financées par le ministère de l'Agriculture. Et c'était au CEP de Florac, au Centre d'expérimentation pédagogique.
Maintenant, l'Institut Agro.
Voilà.
Super Agro pour ceux.
Voilà. Et donc, là-dedans, il y a eu. En fait, les formations du centre étaient destinées à l'enseignement agricole. Mais comme le travail de terrain faisait. Participer beaucoup de gens sur le terrain. Et on s'est dit qu'il fallait, il fallait faire quelque chose pour le terrain. Et donc, le quelque chose a démarré par des actions pour les femmes. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les 200 heures rurales, où il y en avait, c'était une journée par mois, et non, une journée par semaine, et donc il pouvait y avoir deux ou trois groupes en même temps. À chaque fois sur un autre jour de la semaine. Et ces groupes se situaient depuis Saint-Jean-du-Gard jusqu'au Mont-Lozère, quoi. Enfin, il y en avait. Oui, Elkos, etc.
Un large territoire, quand même.
Oui, oui. Et donc, les femmes pouvaient participer à plusieurs formations. Donc, si elles venaient une année à une formation, si 3-4 ans après, il y en avait une autre, elles pouvaient de nouveau participer. Et l'objectif de ces formations, c'était que les femmes ne se sentent plus complètement oubliées sur le territoire. Parce qu'en fait, elles n'avaient aucun statut. Donc, elles étaient femmes d'eux. Mais elle n'était pas ni agricultrice, ni artisane, ni commerçante.
Alors que la plupart du temps, elle travaillait autant.
Évidemment. Évidemment. Surtout qu'en plus, elle s'occupait de leurs enfants, elle s'occupait des personnes âgées. Elles avaient un double métier comme maintenant encore.
Et justement, quel regard vous portez aujourd'hui sur la société en 2022, après 30 ans, voire 40, hein, si, voire même 50 ans, c'est vrai. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette évolution, est-ce qu'on va vers le bon?
Oui, je pense quand même qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé, parce que beaucoup de femmes ont maintenant un métier. Elles ont un métier, une activité, et donc ça leur permet de ne pas tout accepter. Donc, dans le temps, une femme ne pouvait pas divorcer parce qu'elle n'avait plus rien. Alors qu'actuellement, une femme, si elle veut avoir sa propre vie, eh ben elle peut la choisir. C'est pas facile, mais elle peut la choisir. Voilà.
Catherine, je vais vous poser un peu la même question. quel regard vous portez aujourd'hui, et notamment sur cette évolution, en fait, si tant est qu'il y en a une?
Alors moi, ce que je peux dire par rapport à ce que vient de présenter Christina, c'est que je fais partie de ces groupes de femmes. Je suis quelqu'un qui a suivi son mari pour s'installer dans les Cévennes dans les années 80. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une opportunité, j'allais dire, très, très intéressante de participer à ces formations données au CEP, où on rencontrait toutes les femmes du territoire un peu dans la même situation, parce que moi, j'avais effectivement pas de statut. J'étais conjointe d'exploitant. Du reste, ça se retrouve maintenant sur la retraite. Bon, et quand au bout de 15 ans, j'ai répondu à une offre pour le mot directrice et parce que j'avais qu'un mi-temps, on n'était que trois, donc c'était pas du tout comme Valérie à l'heure actuelle. J'ai donc participé à l'évolution du CIDFF. Au départ, c'était vraiment que des questions juridiques. Hein. Les personnes qui appelaient, un peu des femmes victimes de violences, mais elles n'osaient absolument pas se déplacer. Je me souviens d'une personne appelant d'une cabine téléphonique dans un village perdu au Nord-Lozère. Ben, c'est plus du tout le même contexte actuel. À cette époque-là, je pense que les femmes, elles n'osaient pas parler. Elles n'osaient pas se déplacer. D'abord, elles avaient très peu de moyens. Et effectivement, tout le travail qui a été fait par la chargée de mission de l'époque et par le développement du CIDFF et ses différents services, on sent que la Lozère actuelle est à peu près dans le même état que tous les autres départements de France. Alors que dans les années, même 90, on ramait pas mal. Hein, on était quand même loin de beaucoup de choses.
Quand un peu de départements ruraux, peut-être.
Ruraux, oui, mais sur nos 97 départements, il devait y en avoir 4-5, j'allais dire l'Ariège, enfin, tout ce qu'on connaît, Creuse, Corrèze, Lozère. Mais bon, on a mis quand même du temps, et maintenant, je trouve qu'on a bien rattrapé, et il faudrait qu'on continue, parce qu'à l'heure actuelle, au bout de 30 ans, là, on va déménager, on va changer de local, on a besoin à nouveau d'aide pour nous soutenir parce qu'on est maintenant à plus de 10 salariés. Donc c'est quand même super important, hein, en 30 ans. On était au départ 3 avec des mi-temps, des tiers-temps, enfin c'était pas grand-chose. Et là maintenant c'est quand même fabuleux et il y a de la demande, c'est pas... C'est ça. C'est important.
Eh bien, simplement, moi, je peux dire que je suis complètement d'accord avec Cathy. On sent... alors, nous, quand, au début que j'étais présidente, c'est vrai qu'il y avait eu un moment, il y avait plus de la nouvelle chargée de mission venait juste d'arriver, donc en 2001. Moi, j'ai été présidente en 2002. Pendant 5 ans, le poste a été vacant. Ça veut dire qu'au niveau des financements, il n'y avait plus rien. C'était certainement très compliqué pour le CIDFF de fonctionner. Donc, quand moi, je suis arrivée en 2002... Il y avait vraiment un travail de fond à refaire, un travail avec la nouvelle chargée de mission et qui s'appelait Madame... Il y avait Marie-Claude Monod, la première, la seconde, c'était Madame Sophie Pantel, qui était vraiment, comme Marie-Claude Monod, je crois, un soutien indéfectible. Et puis elle vraiment nous a accompagnés pendant ces 21 ans, hein, pour Madame Pantel, 16 ans pour Madame Monod. Et je pense à ce travail collectif, comme le disait Madame Monod. On a pu travailler, parce que moi, je suis arrivée en 2002. Tout était à reconstruire, parce qu'il y a eu ce moment de vacances par rapport à la chargée de mission, manque de financement, etc. Donc c'est vrai qu'on est parti assez fort avec de suite, parce qu'on avait il a fallu embaucher la juriste parce que là il y avait plus de juriste, il a fallu refaire l'agrément, la juriste, un animateur, une secrétaire, on a repris les choses avec en s'appuyant sur ce qui avait été fait, on a redonné un essor à la structure parce que je sais qu'à l'époque c'était des permanents sur Langogne, Marvejol, tout doucement avec le temps on a augmenté. En 2007, on a embauché la première psychologue, c'était grâce à Madame Pantel, parce qu'il trouvait que sur le territoire, il n'y avait que des psychiatres où c'était remboursé, mais il n'y avait pas de psychologue. Donc les femmes qui avaient des traumatismes de violence, etc., il fallait qu'elles payent encore. Enfin, c'était double peine pour elles. Donc il y a eu une première... je trouvais que c'était important, un poste de psychologue pour accueillir ces femmes en 2007. Et moi, ça fait donc 20 ans... au début, on avait un tout petit local de 50 mètres carrés. 10 ans après, donc, ma présidente, on a acheté un nouveau local, hein, qui faisait 140 mètres carrés. Et 10 ans après ces derniers achats, on a cherché un nouveau local qui fait 200 et quelques mètres carrés. Je vais vous dire... On ne va pas être fiers de ça, parce que ça veut dire que c'est grave, hein, que ces situations, on est en 2022, on est loin encore de solutions, on est encore dans un développement parce qu'on sent des besoins nécessaires. Et moi, je vois qu'en 20 ans, on n'a pas arrêté de se développer. Je dirais malheureusement et heureusement pour ces femmes. Voilà, donc c'est vrai qu'à aujourd'hui, on a ce projet, hein, on a acheté ce local. On a choisi l'achat parce qu'en Lozère, vous avez bien compris que le loyer, c'est extrêmement cher. Et donc, c'est pour l'association, hein, c'est pas pour nous, donc il n'y a pas de souci. Donc, on demande s'il y a des... Je sais pas, hein, s'il y a des gens qui ont, je sais pas, de l'argent trop, je sais pas, ou la cause est bonne, voilà, qui peuvent nous aider, nous soutenir. Hein. Et c'est vrai qu'on fait appel. Hein. Vous savez que toute aide, tout argent qui est versé au CIDFF est dégrévé des impôts. Donc c'est ouvert à tout le monde. Hein. Chacun peut. On va lancer
un crowdfunding.
Financement participatif, ça marche bien aussi.
C'est ça, pour nous aider. Et vraiment, on espère que les Lozériens ont bien compris que la cause était bonne pour toutes ces femmes. Je pense que je défends vraiment hommes et femmes ensemble. Il me semble que c'est ensemble qu'on arrivera à dépasser ces espèces de clivages qu'on n'arrive pas, nous, en tant que femmes, à comprendre. Mais on comprend bien qu'il y a toute une culture et une éducation derrière. Mmh. Voilà.
C'est pour ça, pour rebondir sur ta question tout à l'heure, tu parlais de l'adolescent qui souhaiterait, est-ce qu'il pourrait rentrer au CIDFF ? Le CIDFF, sur ces dernières années, développe, en lien avec l'éducation nationale, hein, notamment, les interventions auprès des jeunes. Donc on a commencé par les lycéens. Donc on intervient auprès de classes de seconde, on peut intervenir sur d'autres classes à la demande des établissements, on intervient auprès de collégiens, auprès de primaires, et là on se lance auprès des maternelles. Alors, voilà, donc on est passé, on a près de 80 interventions scolaires, donc qui sont financées par le droit des femmes, par l'ARS, par la région. On les développe parce qu'on a des financements, mais on travaille en grande collaboration avec les services techniques de l'éducation nationale, et on a pu développer, et je pense que ça c'était un vœu de la présidente d'aller parler de ces questions d'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, pour faire de la prévention en fait.
C'est ça, c'est comme le harcèlement ou autre, ça démarre tôt, et plus on prévient tôt, et moins on guérit tard.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, comme le dit Valérie, la directrice, donc on a l'objectif, et je le dis parce qu'il y a très longtemps, il y avait les DAS, vous savez, et maintenant c'était avec un président de la DAS, on discutait, donc je vous parle de ça en 2000, peut-être 2005, 2006, c'était un monsieur, je ne me rappelle plus son nom, et on avait dit que le jour où on toucherait, nous, les CIDFF, les écoles maternelles, on aura tout gagné. Parce qu'on sait bien que tout commence au plus jeune âge. L'éducation, c'est au plus jeune âge. Et maintenant, on est pas que la prévention, mais aussi dans la prévention. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est important, parce que toujours travailler dans le curatif, ça ne fait pas avancer les choses. Et depuis quelques années, là maintenant ça va faire... on était avant centre agréé de formation, on était Datadoc, je ne sais pas si vous connaissez, maintenant on est Calliope, on est agréé depuis le premier des 13 départements à avoir cet agrément centre de formation. Hein. Et on a là aussi le certifélaire où on est le second, avec félicitations du jury. Donc c'est vrai qu'on essaie de développer ces compétences, et il y en a au sein de l'équipe qui travaille sur le terrain. Il y a vraiment des compétences, il y a des gens vraiment engagés, et il me semble que c'est important de travailler effectivement sur les formations, les sensibilisations dès le plus jeune âge. Et c'est de savoir qu'on est cette année, depuis l'année dernière, hein, pour les maternelles, je trouve que c'est pour nous franchement une... Alors je remercie effectivement que ce soit les chargés de mission, la DDETSPP, tous les financeurs, tous les services de l'État, etc., de nous aider dans ces... Parce que on ne peut pas le faire, on est une association, on ne peut pas vivre sans ces financements, mais on sent qu'il y a une écoute, et puis que les politiques publiques ont évolué, et que nous, on est un petit peu... aussi fixé sur les politiques publiques, et on avance avec eux. Voilà, ou c'est eux, enfin je sais pas. En tous les cas, intelligemment, pour une cause qui nous semble nationale, hein, enfin je veux dire même internationale, hein, si on va pas dire.
Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas, vous fêtez vos 30 ans cette année, ça on pourra en débattre pendant des heures, c'est comme les Restos du Cœur. On aimerait qu'ils ne soient pas là, mais ils sont là malheureusement. Mais quand même, parlons un peu de ce qui va se passer très bientôt, le 23 novembre au Théâtre de Mende, et ça s'appelle « Et pendant ce temps, Simone Veil ». Et hors antenne, vous aviez commencé en me disant « C'est vraiment une pièce de théâtre sur l'évolution des droits en 70 ans ? »
C'est ça. En fait, je crois que c'est à l'origine, c'est une madame, c'est Trinidad, elle s'appelle, celle qui a fait ce scénario-là, Trinidad, qui a voulu revisiter l'histoire un petit peu après l'affaire Strauss-Kahn, voilà, en 2011. Voilà. Alors, elle a voulu.
On dit encore son prénom. Oui, son
voilà. Nom, écoutez, je ne vais pas aller plus loin.
Je le dis prêt à l'antenne.
Voilà, voilà, bon. Et donc, elle a revisité l'histoire sur les conditions féminines en France des années 50 à nos jours. Donc, c'est sur trois lignées de femmes qui s'appellent Marcel, France et Giovanna. Ça, c'est l'histoire. Et l'une qui est ouvrière, l'autre qui est bourgeoise et la troisième qui est issue des classes moyennes. Et en fait, leur point commun à ces trois femmes, c'est qu'elles ont travaillé pendant la guerre, qui leur a donné une certaine indépendance éphémère. Je repris, hein, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de le dire. Une certaine indépendance éphémère. Et quand les hommes sont revenus, c'était l'effet mère, l'effet maman au foyer. Hein, voilà. Donc ça part de là. Et en fait, c'est quatre générations de femmes. Hein, c'est trois lignées. C'est sur quatre générations de femmes. Et donc c'est un voyage qui est ponctué un petit peu dans toute l'histoire par une voix, je pense, off, hein, de Simone qui veille et qui va donner toutes les lois sur l'évolution des droits. Et puis, en fait, c'est aussi... il marque cette évolution, elle est faite de combats, de désirs, de doutes et de quêtes d'égalité homme-femme. Et il y avait ce qui était dit un petit peu dans ce texte, c'est aucune revendication, juste un constat et une question, sommes-nous enfin capables d'avancer ensemble. Et je trouvais que cette pièce de théâtre, elle est vraiment pour tout le monde, elle est vraiment, c'est pas de la revendication, c'est vraiment une pièce de théâtre qui aide à comprendre effectivement pourquoi les femmes sont là dans ce combat. C'est simple. Et il y a, je crois que c'est Charlie Hebdo, hein, qui donne ce petit... il me semble que c'est lui qui dit ça. Il dit, en fait, et pendant cette pièce de théâtre, et pendant ce temps, Simone Veil, c'est avant d'être un spectacle féministe, c'est avant tout un spectacle féminin. Je trouvais que c'était important. Voilà. Donc, franchement, je conseille à tout le monde. C'était une pièce. Alors, en fait, on a connu cette pièce, c'est simple, hein, c'est par une dame que je connais, enfin, dont je connaissais beaucoup, la maman, qui est venue me dire, écoute, voilà, il y a une pièce de théâtre, franchement, qui s'appelait pendant ce temps Simone Veil. Elle est très bien. Franchement, il faut que vous voyez, il faut que vous la fassiez venir en Lozère. Et on a trouvé que les 30 ans, c'était vraiment l'occasion de faire venir cette pièce de théâtre. Donc, je vais peut-être passer la parole à Valérie, parce qu'elle, elle connaît tout. C'est elle qui est au cœur de la mise en place de ces choses, des liens entre ces gens et la mise en place de la pièce de théâtre Amande.
Sans transition aucune.
Sans transition aucune. Eh bien, vous aurez compris, venez tous fêter les 30 ans du CIDFF, le bel âge. Amande avec nous, mercredi 23 novembre, donc à 20h30 au théâtre. Vous pouvez réserver vos places donc à l'office de tourisme Amande. Le prix des places, si le spectacle, la venue de la troupe, on est aidé, hein, financièrement, mais ça ne permet pas de couvrir les coûts intégraux du spectacle. Donc le tarif est de 12 € par personne par adulte, de 8 € pour les enfants de moins de 18 ans et de 6 € pour les enfants, enfin les scolaires accompagnés en groupe. Par exemple, les internes, voilà, ou des écoles qui souhaiteraient accompagner des enfants ou des collégiens, des lycéens, des jeunes sur ce spectacle.
Oui, vas-y.
Il y a une billetterie aussi.
Il y aura aussi, évidemment, hein, ne soyez pas inquiets, il y aura une billetterie sur place qui sera ouverte probablement à partir de 19h30.
Si ce n'est pas complet.
Si ce n'est pas complet,
et ben on le souhaite.
Faut aller l'avoir. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues sur cette antenne Radio Bartas. Et vous êtes aussi au magie chez nos amis de 48FM qu'on salue et qu'on embrasse. Merci Eden. Le CIDFF Lozère a un super site internet. Je tiens à dire qu'il est très clair. Vous retrouvez toutes les infos et je mets évidemment le lien sur notre site dans un instant. Et on ne vous le redira jamais. C'est le mercredi 23 novembre. C'est au Théâtre de Mende qu'il faut être. Merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette matinale, on se quitte avec une chanson absolument merveilleuse et incroyable, féminine et féministe. C'est Bibi Alcantara qui chante, la chanson s'appelle Canción sin miedo. À la semaine prochaine, ciao.
el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemblen sus centros.